Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Vous êtes sur RMC, Story, canal 23 de la TNT. Dans un instant, on se demandera si on est devenu esclave de nos téléphones portables. On se demandera ça à cause d'une histoire qui est arrivée aux États-Unis. On en parlera dans un instant avec Rémi Barré. Mais en tout cas, on attend tous vos messages au 32-16. Il y aura vers 14h30, RMC s'engage pour vous avec une histoire invraisemblable, celle d'un homme qui a reçu un mail de condoléances d'une compagnie d'assurance 12 ans après le décès de son épouse. Un mail qui lui apprenait également que la compagnie lui était redevable de 50 000 euros, sauf qu'il n'en a jamais vu la couleur de ces 50 000 euros. Et puis, bien sûr, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il y a quoi, Rémi, dedans ?
On va parler notamment de la pagaille depuis ce matin à la Gare de l'Est, et c'est pas prêt de se terminer, ou encore des adieux aux M&M's. Alors, pas les bonbons, mais leurs personnages. Je vous raconte.
Oui, c'est une histoire très compliquée. Et puis, Rémi, on fait gagner plein d'argent sur RMC cette semaine.
Oui, RMC défend votre pouvoir d'achat. Demain, toute la journée, nous vous remboursons vos factures pour l'hiver, électricité, fuel, gaz, bois. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot facture par SMS au 73216. Facture par SMS au 73216. Le coût, c'est 2 SMS, 75 centimes d'euros par SMS.
RMC Estelle Midi.
Et on va continuer Estelle Midi avec l'histoire du jour. Ça se passe aux États-Unis où le message d'un père quittant le groupe WhatsApp, familial a été vu 15 millions de fois. Ce père invoquait de manière humoristique son droit à la déconnexion, Rémi.
Il s'appelle Thomas D'Orazio, il a 51 ans, père de deux filles de 23 et 19 ans. Il vit en Pennsylvanie et il leur a donc annoncé la semaine dernière, ainsi qu'à sa femme, qu'il quittait le groupe WhatsApp de la famille. Il l'a fait par un message privé sur ce groupe, leur expliquant sa décision en ces termes. « Je ne peux pas lire tout ça. Je ne supporte plus de toujours devoir rire ou aimer ou ajouter des petits cœurs à chaque pensée, photo ou blague publiée ici. Oui, j'aimerais, je rirais, je compatirais toujours avec vous, mais je ne peux plus vivre avec cette pression. » Je pars, et c'est signé d'un vieux grincheux né avant les portables. Un message Nobel. Privé, donc, sur le groupe familial, mais que la fille aînée de Thomas D'Orazio a partagé sur Twitter, et tu l'as dit, résultat, 15 millions de vues, des dizaines de milliers de partages et d'approbations. Pas étonnant, car ce que dénonce Thomas D'Orazio a un nom médical, ce qu'on appelle ça l'épuisement numérique, une sursollicitation, notamment via les réseaux sociaux. D'après le dernier baromètre BVA sur l'hyperconnexion en France, nous passons en moyenne 4h50 par jour devant un écran, dont 1h46 sur les réseaux sociaux. Cela monte à 7h13 passées devant les écrans chaque jour pour les cadres.
Alors, sommes-nous devenus esclaves de nos téléphones portables, Benjamin Muller?
Oui. Oui, trois fois oui. Moi, quand j'entends 4h50, je me demande comment font les gens, parce que moi, je fais beaucoup plus. Ça, il y a un truc qui m'angoisse quand je viens.
C'est 7h13 pour les cadres.
Ouais, je crois qu'on est plus. Il y a un truc qui m'angoisse quand je viens dans cette émission. C'est que je ne regarde pas mon groupe WhatsApp pendant les 3 heures de l'émission. Pour éviter de. Voilà, de
mais quel groupe WhatsApp? Moi, j'en ai 15.
J'en ai 1000, c'est ça aussi. Et donc, quand je sors à 15h, je sais que j'ai 3 quarts d'heure de. J'ai voulu lister, je me suis amusé à lister le nombre de mes groupes WhatsApp. J'en ai deux familles, évidemment. Il y a la famille, la belle famille. Généralement, il y en a un des deux qui s'appelle.
Vous êtes dans un groupe famille. WhatsApp avec votre belle famille?
Bah, bien sûr. Vous organisez, etc.
Mais qui fait ça?
Mais moi.
Vous êtes mis en mute?
Non, je suis pas en mute. Je suis en mute sur certains groupes, je dois dire. Il y a les frères et sœurs. Il y a aussi des groupes. Il y a les différents groupes de copains. Il y a les groupes de voisins. Il y a les groupes de copains où ce qui est terrible à gérer, c'est quand on va en sortir un du groupe. Donc on va créer un autre groupe sans le copain parce qu'on voulait le sortir.
Quel enfer.
Et quel enfer. Et si vous vous trompez de groupe et vous écrivez en bitchant sur celui qui en a censé être sorti.
Je voudrais pas être ton copain, moi.
Ouais.
Oui, mais et alors
on va avoir un groupe WhatsApp avec lui, quoi.
Mais on est dans le même groupe, mais étrangement, c'est vrai qu'il y a jamais de message. Le groupe des chroniqueurs d'Estelle Midi, où on m'a sorti et je m'en suis pas rendu compte. Non, je plaisante, mais c'est vrai que
je suis pas.
Il y a pas de groupe.
C'est vrai que c'est un. Ah bon, alors on m'a menti. Non, c'est vrai que c'est un film.
Il est pas très actif. Tu t'es fait avoir.
Alors attendez, je vais tout à fait vous.
Bon, écoutez, on verra ça.
Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un secret qui est bien gardé. Non, alors on rigole, mais je trouve que ce père a raison, parce qu'en fait, le problème des groupes WhatsApp, moi je trouve, c'est que ça enlève complètement les relations individuelles. C'est-à-dire que, encore le SMS, les mails, pourquoi pas? On s'envoie des messages. Je veux dire, si je veux dire quelque chose à mon père, je lui envoie un message à mon père ou je l'appelle mon père, je discute avec lui. Mais si c'est tout le groupe, tout le monde réagit, mais du coup, mon père à qui c'était destiné va pas spécifiquement répondre.
Dans ce cas, vous lui envoyez un texto à votre père.
C'est ce que je dis. Et le problème des groupes, mais c'est pareil avec le boulot, avec les collègues, etc. À partir du moment où on fait un groupe, même à trois, si on fait un groupe tous les trois, Rémi, Estelle, et que je mets un truc, vous allez tous les deux mettre un pouce en l'air, alors que vous voyez, il n'y a plus de lien particulier.
Non, puis on va sentir obligé de... C'est ce que dit le père. On va sentir obligé de réagir.
Obligé de liker, de mettre un smiley.
Si tu nous envoies un message à Estelle et à moi, je vais réagir. Estelle va voir que
si on fait partie d'un groupe WhatsApp et qu'on réagit jamais aux publications aux blagues idiotes, on passe pour un misanthrope. Il y a une pression sociale.
Moi, je me fais oublier de la plupart des groupes où je pars, parce que maintenant, vous savez que vous pouvez partir d'un groupe WhatsApp sans qu'on le voit.
C'est vrai, mais par contre, si on réagit jamais, effectivement, on passe pour... comme disait ce monsieur, un vieux grincheux.
Oui, mais si personne ne réagit dans le groupe passable, il meurt de sa belle mort.
Mais après, bon, le vrai problème, c'est qu'effectivement, c'est la dépendance. Et je pense
vous êtes dépendant, vous, Laurent, vous me paraissez le plus sensé de tout ce groupe-là, justement, sur le plateau.
C'est gentil. Non, mais moi, je lutte pied à pied, parce que je me souviens, à chaque fois que je reçois une notification sur WhatsApp, je pense à Bernanos, figurez-vous, qui a écrit en 45 un livre qui s'appelait La France contre les robots, où il disait on ne comprend rien à la société moderne si on ne réalise pas qu'elle est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et ça, ressens.
C'est beau, ça.
Je le ressens à chaque fois que j'essaye de lire j'ai mon téléphone portable que j'ai eu la maladresse de laisser allumer et qui vibre et qui essaye de m'empêcher de lire. Et les gens n'arrivent plus.
T'as qu'à déconnecter tes notifs.
Je remarque Laurent, tout en parlant, pour ceux qui nous écoutent à la radio, à son téléphone portable juste à côté de lui.
Oui, c'est parce que pour vérifier une information relative à un humain. Non, mais je lutte parce que c'est un vrai combat. Oui. C'est un vrai combat. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui est empathie, c'est pas seulement les relations sociales, mais c'est aussi. La méditation, l'activité intellectuelle, la lecture, on n'arrive plus à lire plus de 5 minutes d'affilée parce qu'on a besoin d'aller vérifier si on n'a pas reçu un truc, un notif, un machin. C'est un enfer. Mais c'est une discipline.
Mais moi, par exemple, je vais parler de mon cas personnel, je me suis rendu compte que j'étais une très grande lectrice et que je ne lisais plus à cause des séries, etc. Et bien pendant un mois, je me suis interdite de regarder, à partir d'une certaine heure, de regarder mon téléphone, de regarder des séries, etc. Je me suis remise à lire. Un, je dors mieux. Et deuxièmement, et effectivement, avant de me coucher, je regarde une dernière fois. Si j'ai un coup de fil à passer, je passe mon coup de fil. Mais après, basta.
Tu le fais depuis un mois, c'est ça?
Ça marche bien.
Il faut fixer les règles.
Non, je fais depuis beaucoup plus. J'ai essayé un mois, ça a bien marché. Et en fait, j'ai dû regarder une série, peut-être les 4 derniers mois. Alors qu'avant, je regardais tout le temps. Et voilà. Et pareil, je prends le téléphone de mon fils qui a 15 ans. À 22h, il sait que le téléphone, c'est moi qui le prends. Et il n'y a plus de téléphone. Donc après, c'est aussi, je pense, c'est aussi une discipline. Et je vous cache pas qu'avant de dormir, je regarde quand même si j'ai pas eu des.
Non, il faut se fixer des limites. C'est hyper important.
Et voilà. Par exemple, ici. Tout le monde a son téléphone, sauf moi. Oui. Moi, je m'oblige. Pourtant, j'aime beaucoup le téléphone.
Moi, je suis chef.
Oui, toi, t'es chef. Donc voilà, mais moi, je suis. Mon téléphone, il est dans ma poche. Oui. Et en mode avion pendant les débats. Parce que je veux surtout pas être dérangé. Non, mais vraiment. Quand tu parles de discipline, c'est ça. Et je m'oblige à ça parce que je veux pas être tenté de regarder pendant le débat. Oui. Déjà, parce que je trouve pas ça poli. Si par exemple, tu es en train de parler, Julien. J'ai pas envie de.
Tu m'appelles Julien, déjà, ça commence pas. Je m'appelle Benjamin. Merci. Vas-y, ouvre ton portable.
Il a pensé à un de ses amis qui est sur un groupe WhatsApp.
Ah, bien sûr.
Pardon. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais la question, c'est de pas être attentif à l'autre, etc. Après, moi, les groupes WhatsApp, je demande à ne pas être dans les groupes WhatsApp. C'est-à-dire que dès qu'un pote te met dans un groupe WhatsApp, je dis, s'il te plaît, tu mets pas dans le groupe WhatsApp.
En fait, c'est WhatsApp et pas WhatsApp.
Tu mets pas sur ton groupe WhatsApp.
Non,
je te promets. Non.
Mais tu sais d'où ça vient parce que c'est WhatsApp. WhatsApp. Enfin, tu vois, il y avait une blague. Non, mais par exemple, moi, je demande à ne pas être parce que ça, c'est insupportable. Déjà, les SMS, ça peut un peu être chiant, mais au moins, comme tu disais tout à l'heure, les SMS sont directement adressés à toi. Moi, par exemple,
il y a des SMS de groupe.
Un Joyeux Noël en groupe, je ne réponds pas.
Il y en a de moins en moins.
Ça, on a sauvé ça parce que ça a été terrible.
Mais c'est vrai que le moindre dîner, il y a toujours un type qui fait bon, je fais un WhatsApp, comme ça on voit qui ramène le vin, le fromage. Oh, c'est chiant, c'est super chiant. Pendant une semaine, on a des messages.
Une fois que le dîner est passé, tu le supprimes.
Ouais, mais pendant une semaine, tu tapes 12 000 messages pour savoir.
Non, surtout quel jour on arrive.
Excusez-moi, je viens d'en créer un tout à l'heure. Oui. Donc, je me sens pas bien, là.
Le détournement de l'objet du groupe WhatsApp. Oui. C'est-à-dire que ça commence pour un dîner, et puis après, t'as un mec qui envoie des blagues, qui envoie des trucs, qui
vient
ses vacances. C'est insupportable, quoi, tu vois.
Et alors, le pire. Le groupe que je viens de créer.
Oui,
alors, le pire du pire, c'est les groupes de parents d'élèves. Et ça, les amis, il y a.
C'est horrible.
il y a 60 personnes par classe, vu qu'il y a, en gros, il y a 30 enfants par classe, ouais. Enfin, bon, il y a deux parents, etc. Et alors là, le 23h15, bonjour, qui pourrait m'envoyer la photo du cours de maths pour demain du petit Léo qui a oublié son truc? Et alors là, t'as Martine qui répond, oh, mais c'était un cours de maths, je croyais que c'était un cours de français. Maintenant, il y avait poésie. Et là, il commence à débattre.
Dans son dernier spectacle, c'est très drôle. Alerte poésie, je vous conseille de voir ça. Ça pissait de rire.
Ah, bah, il a dû me.
En tout cas, là, il y a un membre de mon groupe WhatsApp qui vient de dire, ouais, t'as raison, c'est chiant les groupes WhatsApp.
Il y a un peu schizophrène.
Il y a un truc pire que le groupe WhatsApp.
Mais très rapide, là, parce qu'on.
Les messages vocaux.
Ah, ça, c'est insupportable.
C'est insupportable.
Enfin, ça dépend.
Ah, mais non, mais c'est insupportable, parce que, au moins, tu lis comme ça, mais là, le truc, t'es obligé d'écouter.
Souvent, c'est long, hein. Souvent, c'est long. Salut, Fred, comment tu vas? Alors, mon petit chat et tout. Arrête, laisse tomber. Dis-moi.
Non, mais ça dépend qui te l'envoie. Si c'est ta femme qui te l'envoie, t'es content.
C'est vrai.
Ou tes enfants, t'es content.
C'est vrai.
Bon, des amis, non, tu t'en fous. Bon, bah voilà. Dans un instant, on sera avec Catherine Lejal, qui est sociologue et auteure de J'arrête d'être hyper connectée, justement, qui nous donnera plein de petits conseils. Mais avant ça, on a Bilal qui nous a appelé au 3216. Bilal qui nous appelle de Lyon. Bonjour Bilal.
Bonjour, bonjour toute l'équipe.
Bonjour, et bonjour. Bilal, alors vous avez un petit souci. Votre épouse est addict à son téléphone. Ça se traduit comment, Bilal?
C'est ça. Si je peux juste me permettre avant, Fred Hermel se plaint beaucoup, mais c'est le seul qui peut envoyer des messages à Zidane.
Oui, ça c'est vrai. Mais Zidane ne répond jamais. Donc ça, c'est quand même.
Détrompe-toi.
Ouais, Zidane, parfois, il essaie d'appeler des gens et les gens décrochent pas aussi. Hein. Ça aussi.
Merci, Bilal. T'as vu les jaloux, hein? T'as vu, hein?
Allez-y, Bilal.
Moi, c'est ma femme qui est un peu addict. C'est au repas, dans le salon, dans la chambre à coucher. C'est téléphone assez souvent à côté d'elle. Et si elle l'a pas à côté d'elle, c'est quelque chose qui lui manque. C'est comme un vêtement qu'elle a pas sur elle, c'est
bien ça.
C'est très important. C'est très important pour elle d'avoir son téléphone à côté. Et puis voilà, elle s'en sépare pas. Hein. C'est les réseaux sociaux, puis tout ce qui s'ensuit.
Mais ce qui est assez fou, c'est qu'avant, alors on dit souvent que le téléphone est un prolongement de nous-mêmes, en fait, parce que on y met nos photos, nos notes, plein de choses, des souvenirs, etc. Et avant, le téléphone, vous l'aviez que pour téléphoner et pour vos gens proches. Et maintenant, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux et c'est même pas des gens proches, c'est des gens, en fait, vous les connaissez même pas, en fait. Et en fait, on va prendre de notre temps familial pour regarder des trucs de gens qu'on connaît pas. C'est ça aussi qui a changé. Mais Bilal, est-ce que vous dites à votre épouse que ça vous gave, finalement, qu'elle ait son téléphone tout le temps avec elle?
Bien sûr, mais après voilà, je vais pas plus loin parce que c'est une génération qui est comme ça. Moi, je suis assez jeune et ma femme est assez jeune. On a 21 et 22 ans respectivement.
Ah ouais, vous êtes jeune, ouais.
Et en fait, c'est la génération qui veut ça. C'est le téléphone, il est tout le temps avec nous. On est connecté en permanence. Enfin, je vous apprends rien. Je sais que dans la table, vous avez des enfants et puis voilà, on est tout le temps à côté, quoi.
Oh bah même les vieux, hein, moi par exemple. Je l'ai toujours dans une poche.
Ça paraît qu'il est pas
grave. Mais Bilal, vous avez quel rapport avec votre téléphone?
Moi en fait pendant le confinement, je vous explique pas, c'était vraiment, j'étais à côté d'une prise avec mon chargeur, mon téléphone.
Ouais.
Et c'était des heures et des heures de téléphone. Et puis quand on a repris le boulot, c'était un sevrage complet. On touche plus au téléphone et puis on tient les outils dans les mains et puis voilà.
Et vous avez réussi?
Téléphone. Oui, c'est pas très compliqué. J'ai pas tout ce qui est réseau et compagnie.
Ah ouais.
Ça change tout.
Ah, c'est ça.
Ouais, voilà. J'ai pas ça.
Ah bah, si on avait tous des téléphones à clapet sans internet, c'est sûr qu'on serait moins sur nos téléphones. Ça c'est sûr. Merci Bilal pour ce témoignage. En tout cas, puis bon courage avec votre épouse.
Pas de soucis, merci.
On espère que vous allez réussir sa déconnexion.
Salut,
Bilal. Vous avez plein de messages, Rémi.
Oui, des messages qui se plaignent effectivement de ce manque de déconnexion et puis certains qui le reconnaissent, hein, comme on vient d'entendre à l'instant. Moi, je sais que tout à l'heure on parlait d'épuisement numérique. Et c'est vrai que parfois, moi, quand je surconsomme les réseaux sociaux, notamment, eh bien, je m'épuise, je me sens plus fatigué que d'autres jours.
Et il y a d'autres conséquences physiques. Moi, j'étais obligé d'aller voir l'ostéo.
Ah bon?
Parce que j'ai changé de portable, il était plus grand, donc j'avais le pouce, il faisait plus le même truc, et ça me provoquait des douleurs dans tout le bras. Je vous jure à cause de ça. Non, mais sérieusement. Mais bien sûr.
Après, il y a un épuisement.
Oui. Vous en prie, Estelle.
Alors.
Je connais à peine.
On est avec Catherine Lejal, c'est notre invitée sur ce débat.
C'est
et Catherine Lejal, elle est sociologue, auteure de J'arrête d'être hyper connectée. Réussissez votre détox digital. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et merci Bonjour. D'être avec nous sur RMC. On fait comment pour se détoxer du téléphone portable, Catherine?
Alors, il faut en moyenne 3 semaines, hein, pour prendre des bonnes décisions. C'est d'abord auditer en fait les mauvais comportements qu'on a. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des mauvais comportements viennent de nous. Donc, si on décide de changer, c'est plus facile. que si ça venait de l'extérieur. Mais ce qu'on voit bien dans tout ce que vous disiez, c'est cette ambiguïté entre finalement, on se plaint d'être hyper sollicité et en même temps, on est touche une espèce de demande d'amour. C'est que tout ça, c'est des preuves. Quand on a tout d'un coup plus de messages, on dit « Ah mince, personne pense à moi ». Et donc, on voit bien cette dualité, cette ligne de crête sur laquelle on oscille, où on se sent important, on se sent aimé, quand justement, on est inclus dans des groupes, quand on reçoit des messages. D'où la détox qui est finalement difficile.
Mais alors, on fait comment? Est-ce qu'il faut, par exemple, mettre des groupes WhatsApp qu'on n'aime pas trop en mute? Est-ce qu'il faut se fixer des horaires auxquels on ne prend pas le téléphone portable? Des moments où on se dit, OK, là, on déconnecte et vraiment, on ne répond pas? Comment on fait?
Effectivement, tout ça, c'est... Alors, il y a au travail et à la maison. Alors, je suis tout aussi mal chaussée que vous. Hein. Là, je travaille sur un article et je me laisse distraire par toutes les notifications qui arrivent. Donc, c'est déjà enlever les notifications sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. C'est-à-dire choisir soi-même quand on y va. Au travail, c'est de se mettre des plages. Ça peut être 20 minutes, ça peut être un quart d'heure pour vraiment s'immerger dans ce qu'on a à faire et pas être interrompu. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez insidieux. C'est cette fragmentation d'attention. C'est le fait qu'on zappe d'un contexte à l'autre. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Le burn-out, c'est ça. Hein, c'est la surchauffe de la machine. C'est on passe d'un SMS, d'un mail à autre chose. Donc, c'est finalement se respecter soi-même et se dire pendant un quart d'heure, 10 minutes, ça peut déjà être quelque chose. Je m'immerge dans ce que je fais. À la maison, c'est aussi identifier des moments. Ça peut être un bain moussant, ça peut être un dîner en amoureux, une balade en forêt. Des moments où le monde n'existe plus et où on est immergé en connexion avec l'instant présent, qui peut être un bon repas, un paysage, un fou rire, un moment, simplement une partie de jeu avec des enfants. Donc que ces moments soient entièrement en connexion avec les cinq sens qu'on a.
Ouais. Alors on est avec Théo qui nous appelle de Saint-Jean de Bray dans le Loiret. Bonjour Théo.
Bonjour Estelle, enchanté toujours de vous parler. Bonjour aux chroniqueurs.
Mais oui, on vous a déjà vu, Théo,
oui, j'ai
en ligne.
J'ai déjà eu le plaisir de vous avoir.
Eh ben écoutez, tant mieux, vous revenez, c'est toujours bon signe. Théo, vous, ce sont vos enfants qui sont accros au téléphone portable.
Alors déjà, je voudrais revenir sur un point parce que je vais faire le vieux gâteux. Déjà, Estelle, vous disiez les photos, on les stocke sur nos téléphones, etc. Avant, sans être vieux grincheux, on avait ce qu'on appelait les albums photos. C'était pas mal aussi.
Qu'on adore regarder d'ailleurs dès qu'on va chez nos parents, on est en train de feuilleter les albums. Ouais,
et puis avant, quand on voulait prendre des nouvelles des gens, même si ça paraissait un peu long, il y avait aussi ce qu'on appelle une carte postale. C'était pas mal ça.
Ouais, c'est vrai. Non, mais vous avez raison.
Effectivement, j'ai des gosses qui sont, un surtout qui est accro au téléphone, et j'ai des amis également qui ont le même symptôme. Pour vous dire, avant d'habiter à Orléans, enfin près d'Orléans, j'habitais dans le 92, et pour stopper les pauses pipi-caca de 45 minutes, j'étais obligé d'installer un brouilleur dans les toilettes.
Ah oui, quand même.
Ah bah oui, mais 45 minutes aux toilettes, c'est 45 minutes, quoi.
Oui, c'est vrai. Oui, mais il y a des gens qui lisent aux toilettes.
Oui,
le brouilleur ne gêne pas.
Le brouilleur ne gêne pas. Et puis j'en ai un. Je connais une personne qui fait pareil, qui a une petite amie. Et donc H24, donc la nuit, ils se couchent ensemble. Donc le téléphone allumé, ils se parlent, ils s'endorment ensemble et le lendemain matin ils se réveillent ensemble.
Attendez, que je comprenne. Mais la fille est là ou pas?
Non.
Oui, la fille est là et le mec est là. Donc les deux sont là en train
dans le même lit.
Non, ils sont à distance.
Ah oui. Mais d'accord, mais en fait, ils sont à distance. Donc ils s'aiment et ils s'écrivent et tout ça. C'est hyper
plutôt mignon, ça.
Non, ils s'écrivent pas. Le téléphone est en appel, ils s'appellent et ils s'endorment tous les deux ensemble.
Ils s'entendent qu'ils ronflent et tout ça. C'est mignon.
Ouais, c'est mignon, sauf que quand c'est tous les jours, c'est un peu gonflant, quoi.
Pourquoi c'est gonflant? En quoi ça vous gêne?
Les ondes et tout ça, c'est pas très bon.
Deux fois, je me mêle, toi, t'es médecin.
Je travaille dans l'informatique, je peux vous dire qu'effectivement, c'est pas très bon. Je vois pas une relation comme ça à distance, mais toutes les nuits, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant.
Et qu'ils s'aiment, et en fait, comme ils peuvent pas se parler, ils se téléphonent.
Mais se téléphoner, se dire bonne nuit chérie, à demain, c'est pas mal aussi. De là à s'entendre ronfler toute la nuit et de s'entendre.
C'est vrai.
Mais ils changeront en vieillissant. Hein.
Oui, c'est ça.
Globalement.
Ouais. Je pense aussi, oui.
Mais on va demander, tiens, mais c'est très intéressant parce qu'on va demander à Catherine Lejal ce qu'elle en pense justement de ce que vient de dire Théo. C'est vrai que j'avais jamais entendu ça, quoi. Des gens, en fait, qui gardent le téléphone allumé pour s'entendre respirer. Bon, a priori, ils doivent être très, très amoureux, ça doit être le début. Mais Catherine, c'est quand même très étonnant, quoi.
Moi, je trouve ça très mignon aussi.
Oui,
c'est triste, ils sont séparés et le téléphone.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que justement, dans la plupart de la population, il y a une vraie réticence pour le téléphone, hein, pour l'appel téléphonique, parce que bah, il dérange, il interrompt. Et on voit bien que la richesse, c'est la voix. C'est finalement la chaleur de la voix et que c'est finalement limité uniquement à la relation amoureuse. C'est là que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Donc, je trouve ça très romantique et très joli, en fait.
Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire autour de la table justement pour limiter votre consommation de téléphone, Benjamin Muller?
Alors, j'essaie de m'imposer, et d'ailleurs, j'y arrive à table. Le portable, il est dans une petite boîte dans l'entrée chez nous, et les portables pour voilà. Et en fait, c'est assez simple de le faire. Et je veux dire, et quand on mange, s'il, il faut surtout pas que le téléphone soit là parce qu'effectivement, il sonne toutes les deux secondes. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde. À table, vous le laissez, notamment quand vous avez des enfants en bas âge.
Ouais, moi, ils m'ont obligé
pour leur montrer. Bah, c'est pas mal. Et ce que je trouve pas mal d'essayer aussi, c'est le dimanche, décider que pendant de l'ouvrir qu'à 15h par exemple. Bon, généralement, je l'ouvre un petit peu le matin, tout ça, je lis le JDD sur mon téléphone, et après, je l'ouvre qu'à 15h. Et ben, mine de rien, je trouve qu'à mon échelle, je suis assez fier de moi. Enfin, c'est vraiment à 15h que je l'ouvre. Et généralement, il y a 50 messages sur différents groupes WhatsApp qui ont, eux, d'utilité. Et le combat, moi, je trouve, j'ai une fille qui a 11 ans, on est en plein dedans, quoi. Elle a pas encore de smartphone, elle a un téléphone à touche. Ouais. Donc vraiment, le vieux Nokia et tout, je vous dis pas, quand on est allé l'acheter à la Fnac, la vendeuse s'est foutue de notre gueule. À la Fnac, hein. Elle a dit, mais ça existe encore, je savais même pas qu'on vendait encore ça.
Ah oui,
donc pour ma fille, bon, c'était compliqué à gérer, etc. Dans sa classe, ils ont tous des smartphones, ils sont tous accros au truc, alors que dans les collèges, c'est interdit, donc ils vont s'enfermer aux toilettes, etc. Donc j'essaye un minimum de donner l'exemple, même si c'est très difficile. Et je pense que la génération d'après, ce sera encore pire que nous.
Et c'est vrai que après ça fait un peu vieux ce que je vais dire, mais vous voyez plein de groupes d'ados et ils sont tous sur leur téléphone en fait. Et c'est vrai que c'est assez assez étrange,
notamment des couples. Moi je trouve quand on voit des jeunes couples qui ont 16 ans, normalement quand t'as 16 ans t'es un jeune couple, tu passes ta journée à te galocher.
C'est fini ça.
Et non,
ils
s'envoient des messages.
Tu parlais tout à l'heure du temps qu'on gagne. Les messages à ce sujet du temps qu'on gagne. Par exemple, le midi on mange moins au travail, mais on part plutôt pour retrouver sa famille. Mais il y a des exemples de gens qui témoignent. Quand, au restaurant, par exemple, il y a une famille de 4 personnes, 2 enfants, les 2 parents, et chacun est sur son portable en attendant que le plat soit servi.
Laurent Dandrieux.
Moi, j'ai désactivé toutes les notifs, effectivement. Ça, c'est bien. Quand je lis, j'essaye de faire l'effort de laisser mon portable loin physiquement pour ne pas être tenté de le regarder. Et alors, une résolution que j'aimerais être capable de prendre, mais j'y arrive pas, c'est-à-dire, quand je vais regarder sur Internet pour chercher un truc, regarder une vidéo, par exemple, je regarde la vidéo et après que je vais regarder, je ne vais pas voir la suivante et tout ça. Et ça, c'est l'enfer. Parce que finalement, on se retrouve... on parlait d'épuisement physique, mais il y a aussi un épuisement moral. C'est-à-dire, quand vous avez passé 2 heures à regarder des âneries, alors qu'en fait, vous avez des choses plus importantes à faire, bah, vous ne vous sentez pas très fier de vous en ce moment-là.
Ou même quand vous vous dites, je vais me coucher à 23h, demain je me lève tôt, et qu'en fait, vous vous rendez compte qu'à minuit et demi, vous êtes encore... Et que ça fait 1h30, vous êtes sur des recettes de cuisine sur Instagram, en fait, vous avez honte, vous dites, mais c'est pas possible. Quoi. Et en plus, vous savez que vous allez le payer le lendemain, c'est ça et que c'est quand même une résolution qui est difficile à tenir, Fred Hermel.
Moi, pareil. Notification, j'en ai pas. Sauf WhatsApp pour le travail, parce que quand même, c'est utile. Mais sinon, j'ai pas de groupe WhatsApp, pas de notification d'info, par exemple, d'être abonné à un journal, etc. Et dès qu'il y a une nouvelle qui arrive, bip, bip, ça, moi, j'en ai zéro. Et puis, sacralisation du repas. Moi, la bouffe est très importante. Et ça, parce que je ne suis des gens restaurant en train de regarder des trucs. Moi, ça me désole de voir deux personnes pas en train de se parler. Donc, moi, quand je dîne avec quelqu'un, le téléphone, il est dans la poche, quoi. C'est tout.
On est avec Rally, qui nous appelle de Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour, Rally.
Bonjour, Estelle. Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Rally, vous êtes accro à votre portable?
Alors, moi, je ne l'étais pas avant, mais ma femme, mon fils, ma fille et mon fils, leur maladie, on va dire.
C'est contagieux,
ouais, c'est
en plus.
Ça. C'est un peu, ouais. Ma fille, elle est. Je suis obligé de l'interdire de faire des pauses parce que sinon, c'est affreux.
Mais elle a quel âge?
Elle a 16 ans.
Dangereux.
Voilà. Moi, j'ai mon fils qui a 21 ans. Alors, lui, avec tous ses pokers, tous ses jeux-là, c'est en faire. Ma femme, c'est pareil. Elle s'endort avec le téléphone. Entre Vitel et tout ça, là, voilà. Voilà. Donc, je peux vous dire que moi, je suis au salon. Pour les appeler, je suis obligé d'envoyer texto, pour vous dire.
Mais non, arrêtez.
Parce que sinon, ils ont les oreillettes, les oreilles, ils n'entendent pas pour venir manger. C'est affreux.
Donc, ça m'est déjà arrivé, c'est horrible.
Ça répond. Ah, c'est horrible. Ah, je me retrouve à mon tri parce que du coup, je me retrouve tout seul quand même à la maison. Moi, je me dis, je vais faire pareil, je vais prendre aussi le téléphone. Ouais, c'est affreux.
Mais vous arrivez à dîner quand même en famille?
Ouais, c'est sûr, bien sûr. Alors, à table, par contre, j'arrête Cardi. J'arrête Cardi à tout le monde, pas le téléphone. Voilà, ça, c'est le seul moment où... Alors, c'est dur, hein, parce que on va faire le cash dans le téléphone, pas vivre dans la poche. Hein. Bon, là, c'est toujours compliqué, un petit peu. Mais bon, c'est comme il a dit l'auditeur précédent, c'est la génération d'aujourd'hui. C'est dur de les interdire. Parce qu'on va dire,
ils sont tous pareils.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est pratique aussi. Bon, voilà. C'est comment ça? Comme ça. Et ouais. Bah, c'est pareil.
On sent fataliste, hein. Ouais, on a l'idée des débats. Voilà. Ouais, bon, voilà.
C'est foutu.
C'est terminé. Mais voyons, on vous a donné des petits trucs quand même pour essayer de déconnecter votre fille, votre fils et votre épouse. Merci, Rally, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Oui, Fred Hermel.
Le problème, c'est que toute la société nous demande d'utiliser le smartphone. Ouais. Pour des démarches administratives, pour payer pour tout.
La banque, l'assurance, EDF, maintenant tout est là.
Enfin, je veux dire, donc
c'est pas la société qui te demande de regarder des vidéos idiotes sur YouTube.
Mais le problème c'est que tu regardes pour une facture. Incite, et puis t'es là, tu regardes un peu de vidéos, etc. Donc le problème c'est que voilà, il y a plein de. D'ailleurs, on parle souvent de la fracture numérique. C'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, beaucoup de démarches administratives ne sont possibles que sur Internet.
Non mais maintenant, je paye avec mon portable quand je vais au marché, mais c'est pratique.
C'est très pratique.
Je peux aller courir, revenir avec mon portable, j'ai pas besoin d'avoir ma carte bleue. Mais j'ai honte.
Moi, il y a une grande humiliation que je vis quand même de temps en temps. Vous savez, vous parlez avec quelqu'un, vous êtes en train de parler en tête à tête dans la vraie vie physiquement. Ouais. Vous lui parlez et il sort son portable et il scrolle.
Comment ça scrolle?
Et ça, vous vous sentez vraiment moins que rien à ce moment-là.
Ça, c'est insupportable.
Et malheureusement, c'est de l'éducation.
C'est parce qu'en fait, il est en train de fact-checker ce que t'as dit.
Allez, on est très en retard. Merci beaucoup, Catherine Lejal, d'avoir été avec nous. On vous a demandé sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Si on était devenu esclave de nos téléphones, ça donne quoi, Rémi?
Ils ont voté sur les réseaux sociaux, ceux qui ont répondu. Donc ils sont conscients d'un
certain de Stockholm.
Ils sont conscients, mais ils sont conscients en tout cas de leur situation, puisque 85% répondent oui. Nous sommes devenus esclaves des téléphones, de nos téléphones.
Pas faute. Allez, dans un instant, Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous. On va vous aider sur RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC Midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de vous aider. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et c'est une histoire hallucinante aujourd'hui. Amélie Rosic dans RMC s'engage pour vous. On parle placement financier, mais pas que.
Oui, contrat de capitalisation pour être précis. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici. Ah oui, alors oui. Bravo, parce que moi j'ai complètement découvert. Hein. C'est une forme d'épargne très française qui ressemble à un contrat d'assurance vie, pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas. Bernard, 88 ans, ne connaissait comme moi pas ce produit financier. Il est veuf, Bernard, depuis 2010. Et ce n'est qu'en mai dernier, 12 ans après la mort de son épouse, qu'il reçoit un mail de l'assureur Generali. Nous vous présentons nos condoléances pour le décès de votre femme. Cette dernière avait souscrit un contrat de capitalisation. Merci de prendre contact avec nous. 12 ans plus tard, c'est un message qui a heurté Bernard et sa fille Véronique. C'est elle qui nous a contactés.
Recevoir des condoléances 12 ans après, on a été quelque peu surpris, estomaqué, limite choqué. Ça nous rappelle aussi des mauvais souvenirs. C'est pas très très sympa.
Véronique et son papa ne sont pas en plus au bout de leur peine. Ils ont beau envoyer les documents demandés par Generali, ils ne cessent de recevoir le même mail de condoléances plusieurs fois, mais pas le capital, pour un total de plus de 56 000 euros.
Incroyable.
On leur aura envoyé tous les documents qu'ils souhaitaient, donc je vous dis pas les copies, les photocopies, tout ce qu'il faut faire, les scans dans tous les sens. Alors, mon papa qui a 88 ans, il en a ras-le-bol, il n'y a pas d'autre mot. Il est un peu dépassé par ces événements. Donc j'espère qu'on arrivera à une suite rapide, parce qu'on est quand même en janvier 2023 et ça date depuis juin 2022.
Mais c'est hallucinant, Amélie, mais qu'est-ce qui bloque?
Alors on a contacté Generali et on doit le dire, parce que c'est pas toujours le cas pour les entreprises avec lesquelles on est en contact, ils nous ont répondu très vite. Hein. L'assureur en revanche nous dit avoir envoyé des courriers dès 2010 à Bernard. Lui, Bernard, nous assure n'avoir rien reçu. Étonnamment, 12 ans plus tard, les courriers de condoléances, il les a bien reçus. Donc bon, je vous laisse juge. Oui. Quant au mail de condoléances, franchement malvenu 12 ans plus tard, Generali nous explique qu'il s'agit en fait de courriers automatisés, envoyés de manière automatique tous les mois jusqu'à ce que le dossier soit complet. Et là, en l'occurrence, il manquait un document. Sauf que on ne l'a pas dit à Bernard. Et en l'occurrence, ce document, c'est le formulaire 2705. Alors dit comme ça, ça sonne un peu... Voilà, ça sonne un peu mystérieux, on dirait un peu un début de sketch des Inconnus, mais non, c'est très simple, en fait, c'est juste une déclaration de succession qui doit être remplie par le notaire de la famille, mais ça non plus, personne ne l'a dit à Bernard. Alors, reste à savoir, est-ce que le notaire a sa part de responsabilité là-dedans? En tout cas, Bernard n'a jamais reçu de courrier quand même de Generali, donc ça paraît un peu étonnant. C'est aussi de la responsabilité de l'assureur que de rechercher les héritiers dans le cas de décès. En tout cas, suite à notre intervention, Generali s'est engagé à traiter le dossier de Bernard en priorité, et donc le capital de 56 000 euros lui sera versé à lui ainsi qu'à ses enfants dans les 30 jours.
Ah, ça c'est super.
Voilà, ouais, non, c'est une bonne nouvelle.
Ah, on est content. Voilà, on est content pour toute la famille de Bernard.
Et on remercie quand même Generali pour la rapidité avec laquelle ils nous ont répondu à nous.
Avec
oui, tout à fait, tout à fait.
Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Bravo Amélie. Et puis alors, une autre bonne nouvelle. Hier, on vous parlait de Natal Market. C'est un site qui a arnaqué de jeunes parents qui achetaient leur première poussette, etc. Le site a pris l'argent, ne leur a jamais rien envoyé. Et vous avez du nouveau dans cette affaire 24 heures après, Amélie.
Absolument, il y a du nouveau judiciaire, hein, parce qu'auprès de nous, la gérante, elle s'était engagée à livrer et rembourser tout le monde. Mais visiblement, la justice, et nous aussi, on le disait hier, a un petit doute, puisque le parquet de Paris nous a informé hier soir que Natal Market est visé par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses, et ce, après le dépôt des plaintes par ses parents qui ont commandé des poussettes, des sièges auto, parfois pour plusieurs milliers d'euros, et qui n'ont toujours rien reçu depuis des mois.
Et ça encore, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Amélie Rosic. Si vous aussi vous voulez être aidée par Amélie et toutes ses équipes, une seule adresse, RMC pour vous, @rmc.fr. On parle de quoi demain, Amélie?
Demain, c'est une grosse enquête qu'on va vous révéler sur un réseau de fausses cartes professionnelles VTC.
Aïe. Merci beaucoup Amélie. RMC s'engage pour vous tous les jours sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi à 14h30. Et puis si vous avez raté la chronique d'Amélie, eh bien, vous savez que vous pouvez la retrouver bien sûr en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur vos applis de podcast. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi et dans cette dernière partie, on vous donne les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et ces infos, on va les commenter avec Rémi Barré, Benjamin Muller, Laurent Dandrieux et Fred Hermel. Et nous allons commencer, Rémi, avec la pagaille du jour.
Le trafic à la gare de l'Est à Paris, interrompu depuis ce matin, le restera toute la journée et on n'est pas sûr qu'il reprendra aujourd'hui. Résultat d'un incendie volontaire sur des câbles électriques. Le ministre des Transports Clément Beaune et la SNCF ont dénoncé un acte de malveillance dans un poste d'aiguillage qui a provoqué l'interruption totale du trafic au départ et à l'arrivée de la gare parisienne.
C'est incroyable hein, quand même, Benjamin Muller, voilà, qu'une gare soit paralysée comme ça pendant 24 heures.
C'est quoi. Ça, et alors c'est donc un acte de malveillance, enfin je suis pas du tout spécialiste en acte de malveillance SNCF, mais donc on se dit que potentiellement on a la capacité de bloquer quand même tout un pan du pays.
C'est ça qui est le plus inquiétant.
Il faudrait connaître le nombre de personnes qui arrivent et qui repartent par là chaque jour. Les images.
41 millions de voyageurs par an, donc c'est
par
plusieurs,
an,
plusieurs dizaines
par 365
par jour.
Il faudrait faire le calcul et surtout, il faudrait pas que ça donne des idées à d'autres dans un contexte social tendu, parce qu'effectivement, j'ai quand même l'impression que ça doit pas être ultra compliqué de mettre en place ça, mais les conséquences pour l'économie du pays et pour tout le reste sont très importantes. On n'a pas besoin de ça en ce moment en plus. Je veux dire, pour un jour où il y a pas de grève, aujourd'hui il y a pas de grève. Comme le signaler, donc c'est quand même.
Enfin, non.
Non, je crois pas. Non, c'est bon.
C'est l'info, en fait.
Mais c'est vrai que c'est absolument.
Ce qui était vrai, ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'effectivement, de penser qu'un poste d'aiguillage comme ça puisse être accessible. Alors, sauf si on a affaire à une organisation criminelle extrêmement professionnelle, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais qu'effectivement, tous ces trucs-là soient finalement accessibles au sabotage assez facilement, quoi. Parce que c'est pas très rassurant. Hein.
Tu dois faire la moue, Fred Hermel.
Ben non, mais sans vouloir accuser personne, bien entendu. Et
mais vous allez quand même le faire.
Mais il faut quand même connaître un minimum pour savoir que tel endroit que tu vas détruire va provoquer la pagaille. C'est pour ça que je veux dire, je n'accuse personne. Hein, moi, tu me dis, tu vas où est-ce qu'il faut aller brûler ou casser un truc, je sais, mais qui va bloquer toute une gare. Enfin, j'imagine que. Ou alors, c'est vraiment le mauvais hasard qui fait qu'une personne casse un truc et c'est le truc névralgique. Je sais pas. Mais déjà, il faut vraiment être très très con ou être un salaud pour faire des trucs pareils, quoi. Voilà.
Ah oui, carrément.
Bah oui. détruire le truc, enfin ces trucs publics,
tu pourris la vie des gens, quoi.
Tu pourris, enfin je veux dire,
ou même c'est la malveillance.
La malveillance, c'est-à-dire qu'on n'a pas été élevé comme ça. Moi, je ne peux rien. Je sais pas. Ces gens qui cassent des trucs pour casser, je ne supporte pas.
Là, je pense qu'il y a une arrière-pensée derrière.
Exactement. Oui. C'est pas juste pour casser, tu vois.
Oui. Donc, c'est bien ce que je disais avant. On voulait quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait, qui connaissait le métier.
Il y a une enquête qui est en cours. En tout cas, la SNCF évidemment a déposé plainte.
Évidemment. Le procès du jour.
Le procès du jour, quatre hommes comparaissent à partir d'aujourd'hui pour violence aggravée devant le tribunal correctionnel de Roanne, poursuivis pour avoir passé à tabac un mineur en octobre 2002. Ça avait fait beaucoup de bruit. Hein.
Oui.
Un père de famille et trois de ses amis sont soupçonnés d'avoir frappé notamment un coup de barre de fer un jeune homme, mineur isolé originaire de Guinée, âgé de 16 ans, à qui il reprochait d'avoir agressé sexuellement la fillette de l'un d'eux. Le jeune homme en question est lui toujours en détention provisoire à l'heure actuelle.
Et c'est vrai que c'est une histoire compliquée.
Pas tant que ça, moi je trouve, parce que c'est pas le Far West en fait. Je suis désolé, on vit dans une démocratie. Le procureur de Roanne, ce matin, je l'ai entendu, il dit, il a raison, c'est pas le Far West, on fait pas justice nous-mêmes. On a des fondements qui sont assez simples. Une fois que j'ai dit ça, moi, dans la situation de ce père, est-ce que j'aurais fait la même chose si j'avais pu le faire? Sans doute. Mais du poste qui est le mien, là, donner mon avis, non, on peut pas légitimer ça, parce que sinon, ça devient vraiment n'importe quoi. Et on se retrouve à l'époque du Far West où on allait se faire justice soi-même.
Certes, mais effectivement, il y a eu énormément de témoignages après ce fait divers. Alors, il y a toujours des zones d'ombre, hein, évidemment, mais il y a plein de gens qui ont dit, si ça avait été ma fille, la première réaction, c'est
ça. Oui, mais le principe de la justice,
je suis d'accord.
C'est pas de juger en se disant si j'étais moi-même victime.
Je suis d'accord.
On peut pas ne pas juger, en tout cas, ces messieurs qui vont passer.
C'est effectivement le premier réflexe de se dire ça. Si j'avais été placé dans cette situation, je sais pas ce que j'aurais fait dans le meilleur des cas. Après, quand on se penche sur le détail de l'affaire, on découvre que le père de l'enfant molesté lui-même avait eu des histoires avec la justice pour des faits de violence. Après, bon, je pense que c'est normal que des gens qui ont tabassé une forme de lynchage passent en procès. Je trouve le timing un peu dérangeant. C'est-à-dire que le fait qu'eux soient jugés avant l'auteur des faits incriminés, c'est...
C'est correctionnel, que l'autre, c'est assises. C'est pas la même juridiction.
Mais je peux concevoir qu'auprès du grand public, ça puisse être mal ressenti.
Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une différence.
Toujours cette idée qui est dans l'esprit des gens et qui est très dans l'air aujourd'hui, que aujourd'hui le système judiciaire est plus favorable aux coupables qu'aux victimes.
Oui, mais là c'est la justice qui est faite comme ça. Il n'y a pas de volonté de nier ou quoi que ce soit.
C'est malheureux. Ça me fait très peur. Et puis il y a un truc, on peut se tromper. Si déjà il y a des erreurs judiciaires faites par des policiers qui sont des professionnels, des enquêtes. Oui, les policiers peuvent se tromper et des justice rendue par des gens qui peuvent se tromper, c'est normal parce que ce sont des humains, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et pourtant, c'est leur métier. Je pense que quand t'es sous le coup de l'émotion bien légitime, tu n'as pas tous les éléments en main. Donc je trouve ça très dangereux en fait. C'est-à-dire que n'importe qui nous pourrait se faire tabasser par des gens parce qu'on pourrait être soupçonné.
Parce que tu ressembles à
quelqu'un. Tu sors de là.
Bien sûr.
Et on dit tiens, tu ressembles à Julien, toi. Ouais. j'ai fait sur ton prénom. Non, mais moi ça me fait très peur. Et la grandeur d'une démocratie, c'est justement qu'on confie à des gens le fait de rendre la justice en notre nom. Et quand il n'y a plus ça, c'est plus la démocratie.
Mais ce qu'il y a, c'est que ce genre de choses est permise par un climat où il y a une défiance dans la justice et dans l'autorité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autorité ne fait plus son boulot.
Voilà, donc qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Parce que pour avoir récemment discuté avec un policier pour une histoire de... Moi, j'ai porté plainte, j'en ai déjà parlé ici, pour un cambriolage, donc c'était rien. En gros, je lui ai dit, bon, ce sera pour quand? Il me dit, mais monsieur, aujourd'hui, quand une femme vient porter plainte pour viol, on sait qui l'a violée, on sait tout exactement, ça peut prendre plusieurs mois, voire une année entière avant qu'on l'entende, le monsieur. Donc en fait, quand vous entendez ça, vous dites, bon, ok, on peut critiquer la justice, courageant. La police, tout ce qu'on veut, en fait, on peut rien faire, il n'y a aucun moyen de rien du tout. Après, une fois encore, on se met à la place de ce monsieur, il ne faut pas le faire, etc. Mais on peut comprendre.
La disparition du jour, c'est une sombre affaire, Rémi.
Adieu M&M's. Alors je vous rassure, les chocolats rombés vont persister, mais la marque, qui appartient au groupe Mars, vient d'annoncer qu'elle suspendait ses porte-paroles publicitaires bien connues à travers le monde. Vous savez, ces personnages qui ressemblent à des smileys avec des bras et des jambes. C'est l'apparition récente de Purple, le bonbon violet, qui a suscité la colère de militants radicaux conservateurs de droite aux États-Unis, qui ont estimé que le personnage était trop politisé. Il faut savoir que la couleur violette symbolise notamment le soutien à la communauté LGBT. Ces dernières années, deux autres camarades féminins, vert et marron, avaient rejoint rouge et jaune. Elles aussi avaient été créées, selon M&M's, pour représenter l'acceptation et l'inclusion.
C'est très sérieux.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Entendez, ça pourrait arriver en France, ça? Non, on n'y croit pas.
On n'en est pas loin. Mais c'est une histoire qui est idiote des deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, personnellement, je ne m'étais jamais aperçu que ces braves M&M's représentaient quoi que ce soit. Donc voilà, moi, je les avalais sans penser à mal.
Maintenant, vous allez réfléchir à deux fois.
Voilà. Et puis, par ailleurs, effectivement, est-ce que c'est le rôle de bonbon de nous sensibiliser à l'inclusion? Il y a un moment, ça suffit.
Mais si,
il y a la ras-le-bol de ce bourrage de crâne permanent, là, ça suffit, on n'en peut plus, en fait.
Du bourrage d'estomac, là, en l'occurrence.
Oui, mais non, c'est du bourrage de crâne via l'estomac. Donc, en plus, c'est pas bon pour la circulation.
Pardon, mais quand je mange un M&M's violet, je ne me demande pas à quoi ça correspond.
Donc, c'est pour ça que je dis que c'est idiot des deux côtés.
Vous n'êtes pas obligé.
Mais
non, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les manger.
Mais moi, je trouve ça pathétique qu'aujourd'hui, les marques se sentent obligées de faire passer des messages. On s'en fout, les messages, il y a la poste.
Aux États-Unis, ça marche. La poste marche moins bien. Mais aux États-Unis, tous les messages, vous le savez.
C'est insupportable.
Mais ça fait aussi beaucoup avancer les choses.
Non, je crois pas.
Les M&M's
de couleur, je suis pas sûr.
Les M&M's violets, ça fait avancer les choses. Ça ferait bien.
Regardez, vous savez, par exemple, des Barbies inclusives, elles sont nées aux États-Unis. Barbie fauteuil roulant, Barbie vitiligo, enfin bon, bref, il y a plein de Barbies.
C'est le triomphe de la morale. La morale
s'insinue partout. C'est pas vous qui allez me dire ça.
Moi, je suis contre la morale à jet continu toute la journée. Moi, je suis contre ça dans tous les domaines. La morale, il faut qu'elle reste à sa place. C'est important qu'il y en ait, mais il faut qu'elle reste à sa place. Quand elle envahit toute la vie.
Mais pas dans les M&M's, quoi.
Quand elle envahit toute la vie quotidienne, en fait, on n'est pas très loin.
Elle envahit un paquet des M&M's,
les McDo, elle envahit tout. Elle est présente partout. Et en fait, on ne peut plus respirer. On est asphyxié de morale toute la journée.
Et comme disait Léo Ferré, n'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Alors moi, en tant qu'hétérosexuel, est-ce que j'avais le droit de manger un M&M's violet? Non, mais je me pose la question. Je voudrais pas aux Français, quoi. Non,
mais enfin, c'est n'importe quoi ce que tu dis là.
Mais ce qui est n'importe quoi, c'est de créer des M&M's homosexuels, quoi.
Mais excuse-moi, tu es ridicule. Enfin, par
c'est pas tout à fait des M&M's qui sont homosexuels.
Non, mais c'est moi qui suis ridicule en essayant de ridiculiser le truc. Ou c'est le fait de faire des bonbons inclusifs qui n'est pas ridicule. Tu vois, c'est quand tu dénonces. Tu vois, tout à fait. Tu es une victime du woke. Nous les gens qui utilisons un peu de dérision pour ridiculiser un truc ridicule, nous sommes mis de côté.
Parce que qui mange des M&M's, c'est les enfants, et donc c'est une manière aussi de les sensibiliser d'une autre façon, je veux dire, à la cause LGBT ou à d'autres causes.
Je pense que l'enfant qui mange un M&M violet, il s'aperçoit que c'est pour la cause des LGBT.
C'est la communication des M&M's. Et d'ailleurs, à mon avis, ça sent juste l'énorme coup de com des M&M's qui va rien retirer du tout. Et c'est juste pour faire parler, parce qu'en fait, tout est parti de Fox News.
J'avais jamais vu des M&M's violets.
En fait, ils l'ont sorti en octobre dernier, et en janvier, ils ont lancé une édition limitée avec uniquement les M&M's filles dedans. C'est assez rigolo. Il y a un éditorialiste sur Fox News qui a passé un gros coup de gueule. C'est un peu le Fred Hermel américain qui a dit
c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus du chocolat woke.
Je t'en prie, Perico. du chocolat woke. En revanche, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites oui, les Barbie, les trucs de la morale et tout. En fait, les Barbie,
c'est super.
Mais les Barbie, c'est très bien parce que pendant longtemps, elles étaient blondes, hyper fines,
à forte poitrine.
Et les seuls. Il peut y avoir des nuances quand même dans ce qu'on dit.
C'est très dérangeant, mais tous les deux, vous me faites. C'est incroyable.
Vous êtes face à moi là.
Je suis fier d'être dérangeant.
Non, mais ce que je veux dire par là.
Taisez-vous.
En fait, vous pouvez pas à la fois dénoncer la décadence de la société, ce qui globalement est votre propos, parce que je vous entends tous les deux l'un et l'autre le dire, et après, quand on dit on met un petit peu de morale, dire on a plein le cul de la morale, laissez-nous vivre tranquille. Une fois encore.
Et c'est pas la morale qui m'intéresse, moi, c'est de la morale. Ça, c'est de la moralisation, c'est pas de la morale.
Oui, mais pourquoi pas? Après tout, si l'idée
c'est du message des autres,
Fred,
c'est la morale américaine.
Fred,
ils vont manger leur M&M's en se disant qu'il y a un truc derrière et ils vont pouvoir l'expliquer à leurs enfants. Et puis d'autres comme toi, et ben ils en foutent et ils vont engouffrer leur M&M's. C'est plus facile.
Tu as besoin des M&M's
pour expliquer à tes enfants. Tu laisseras les violets de côté si ça te gêne.
Estelle, sois honnête avec moi.
Mais c'est pas ça.
Tu as des enfants. Tu as besoin, toi, Estelle Denis, de M&M's pour expliquer à tes enfants le respect des autres.
Mais moi, je m'en fous. Je veux dire, le M&M's, j'ai de manger, quel qu'il soit, violet, qu'il soit noir.
Mais d'ailleurs, ils attendent pas ça. Ils attendent pas ça. Eux, ils veulent juste communiquer en disant regardez, on lance un nouveau M&M's. symbole de l'ouverture d'esprit, on est tous différents. Fin du game. Est-ce que, en quoi c'est une valeur de dire ouverture d'esprit?
Mais c'est justement, c'est ça qui fait partie aussi de ce processus de.
Mais l'ouverture d'esprit, c'est bien.
Mais sauf que, en fait, ils en ont rien à foutre de l'ouverture d'esprit. Ils font de la com. Ils font de la com, ils font passer ça pour du, pour de la philanthropie.
Moi, je préfère cette com-là qu'une autre forme de com qui va humilier, qui va ostraciser les gens, etc. Quel est le problème, en vrai, monsieur?
Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de mettre de la moraline partout.
Même dans les bonbons.
Voilà.
Bonbons.
Oui, bon, bah oui, bah c'est des bonbons, mais qui permettent de parler de différentes causes. Voilà.
Oh,
mais
ce que
vous êtes réac, mais c'est incroyable.
Tu crois pas une seule seconde.
Mais si, bah tiens, l'exclusion du jour.
Le jeune homme et son père ont reçu de nombreux soutiens sur Facebook. Émotion à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Après qu'un jeune de 14 ans, autiste, ait été exclu d'un bar de la ville où il avait l'habitude de venir boire un sirop chaque jour en fin d'après-midi. Le serveur lui aurait demandé de ne plus venir au prétexte qu'il dérangeait les autres clients. Contacté par le journal de la Provence, l'établissement explique avoir demandé que Yanis, c'est le prénom du jeune homme, soit canalisé pour éviter qu'il ne se blesse et qu'il ait le bienvenu dans le bar.
Elle est difficile, hein, cette histoire, Benjamin Muller, mais c'est quand même terrible, voilà, de demander à un gamin
compliqué
aussi.
Très compliqué. Je me mets à la place des parents d'enfants atteints de troubles spectre, enfin, autistes, qui entendent ce genre d'histoire. C'est terrible. On dit qu'il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Et c'est vrai qu'il y a des autistes plus ou moins légers. Le point commun, c'est quand même toujours les interactions avec le monde. Donc, en fait, ce sont des enfants qui deviennent plus tard des adultes qui ont des difficultés tout le temps. Et si là, ce pauvre gamin qui, vraisemblablement, Rémi, allait tous les jours boire ce petit coup, je veux dire, s'il n'y a pas le, j'allais dire la morale, mais je vais me faire traiter de nazi si je parle de morale. Mais s'il n'y a pas l'espèce d'empathie pour accepter un petit peu. Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué parce que moi, même moi, quand j'ai lu l'information, on sait que les autistes peuvent parfois avoir des
bien
comportements
compliqués. Mais une société s'adapte aussi aux différences et aux difficultés imposées par les autres. Et je veux dire, ce serveur, honte à lui, quoi. Alors, il s'est excusé très bien. Il se dit, je suis un peu déconné, quoi. Mais plutôt, honte à lui. Ouais.
Enfin, c'est quand même terrible de voir ce genre de nouvelles, quoi.
Ah, bien sûr.
À un moment, on est quand même normalement à l'ère de l'inclusion, d'essayer d'inclure
un maximum. Sauf que là, on ne fait rien pour les enfants autistes qui sont envoyés en Belgique, parce qu'en France, on ne fait rien. Ça, c'est une vraie cause nationale, ça.
Ouais.
Hein, que des parents doivent payer des établissements privés c'est en vrai. Belgique, parce qu'en France, on n'a pas.
Alors, on rattrape un peu notre retard, Fred.
Oui.
Pour être totalement sincère, depuis Macron, et en particulier
Brigitte Macron,
il y a un plan qui a été mis en place, notamment pour le diagnostic, soit plus tôt, parce qu'il y a encore quelques années, c'était diagnostiqué à 7 ans. C'est une catastrophe. Ensuite, c'est devenu 5 ans. Maintenant, des 2 ans, 2 ans et demi, on a formé les médecins, les pédiatres. Il y a des trucs pluridisciplinaires pour accompagner les enfants. Donc, le retard est tout doucement, je crois, en train d'être rattrapé sur ce sujet.
C'est pas encore la panacée. Quand même.
Non, c'est pas ce que je dis.
Merci à tous les quatre. C'est la fin d'Estelle Midi. Mais on va retrouver tout de suite Vincent Moscato, le super Moscato Show. Comment ça va, Vincent?
Mais pas mal, Madame Midi. Oh, le super Moscato Show. Très riche.
Des débats
comme s'il en pleuvait. Mbappé doit-il être capitaine au PSG? Donne-moi ton avis, toi qui aimes ça, les capitaines de long cours.
Mais oui, et même en équipe de France d'ailleurs.
Pourquoi pas, bien sûr.
Oui, c'est parti.
Ah, tu t'y connais, toi, capitaine. Quel dossier indispensable à l'OM? Je te pose une question. Parce que peut-être qu'ils vont le vendre, je ne sais pas.
C'est un débat compliqué. Hein.
C'est un débat compliqué, tout à fait. Et le tournoi à destination.
Celui
qui va sortir premier, là, qui va gagner le tournoi, le grand chelem, aura-t-il un avantage certain, psychologique, au moins pour la Coupe du Monde 2023 qui va démarrer en septembre, fin septembre.
Moi, je pense qu'on va tout gagner.
Tu vas tout gagner, toi?
Non, mais l'équipe de France, oui.
mais toi, tu penses qu'on va tout gagner, ça?
Ouais.
Un nouveau grand chelem.
Je mets un petit billet.
Ah, tu mets un billet.
Ouais.
Bon, écoute-moi, je te suis, mais c'est quand même compliqué. Faire deux grands chelems d'affilée, c'est très rare. C'est arrivé, je crois, en 96-97 ou 97-98. Je ne sais plus, ma mémoire me lâche, hélas. Mais bon, c'est arrivé rarement. C'est le Super Moscato Show, Estelle. On arrive tout de suite.
Et on va vous suivre, évidemment, le Super Moscato Show, 15h-18h. Et nous, sur RMC, bien sûr. Et nous, on revient demain sur RMC. RMC Story, midi, 15h. Bonne journée à tous et à demain.
RMC, 15h, 18h.
Le Super Moscato Show.